BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Clauzier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le Mag. Cette semaine, on va décortiquer la stratégie RH de Pernod Ricard qui a un site flambant neuf en plein Paris et en pleine période de Covid. On va aussi parler de la data, meilleur ami ou meilleur ennemi des DRH. Qu'est-ce qu'on fait de cette montagne de données? On va en parler dans un instant avec Olivier, parent du Châtelet. Et puis, les arnaques au CPF, ça vous dégoûte, ça vous donne envie de tout faire sauf une formation? Eh bien, vous avez tort. On va en parler avec Jérémy Placereau de chez Hello Work. Happy Boulot, le Mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le Mag, l'exécutif de la semaine.
Et on va aller voir comment ça se passe dans les grandes entreprises. On est avec Cédric Rama, DRH de Pernod Ricard. Bonjour, merci d'être avec nous dans Happy Boulot, le Mag. Un nouveau siège, des annonces fracassantes sur le congé parental, mais quand même une situation en ce moment difficile dans votre entreprise comme ailleurs. Comment ça va? Comment est le moral chez Pernod Ricard en ce début d'année?
Bonjour. Bonjour. D'abord, en ce début d'année, on est content de se retrouver tous. Le moral est objectivement compliqué à faire évoluer dans cet environnement-là. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de se dire on a la capacité à travailler ensemble. On a fait un ciel, vous en parlez, qui est dans Paris. Ça nous permet de mettre les gens ensemble. Et les gens sont tellement contents aujourd'hui de pouvoir se retrouver. Alors évidemment qu'on est en télétravail, qu'il y a des nouvelles règles de télétravail que l'on respecte. Mais aujourd'hui, la réalité après ces deux ans particulièrement difficiles, c'est que ce que l'on voit, c'est que les gens ont besoin de se connecter. Et pour nous, c'est particulièrement sympathique puisque, en fait, c'est ce qu'on est Pernod Ricard. On est créateur de convivialité, donc on essaye de le vivre en interne. Donc, le moral est bon.
Ce projet de siège en plein Paris, il était bien sûr construit avant la crise sanitaire. Vous l'avez inauguré en 2020. Désormais, tout le monde veut y aller. Tous ceux qui doivent aller bosser dans ce siège en plein Paris, à côté de la gare Saint-Lazare, ont envie, j'imagine, d'y aller.
Oui, parce qu'en fait, on avait fait à ce moment-là le pari de dire, on veut des bureaux au cœur de Paris, on regroupe toutes nos entités pour que les gens soient ensemble et puissent partager, innover, créer en étant ensemble. Et on est totalement en flex, donc c'est toujours un sujet un petit peu qui amène à discussion. Mais pourquoi on a fait en flex? C'est parce que ces bureaux ont été pensés pour travailler ensemble. On vient pas dans ces bureaux, je parle pas du Covid, on vient pas dans ces bureaux pour faire ses mails dans un bureau avec une porte fermée. Ça, c'était le concept dès le départ. Alors évidemment, c'est encore plus valide aujourd'hui avec le Covid. Donc quand on vient au bureau, c'est pour interagir ensemble. Et donc, ils ont été construits comme ça. Et donc, ils sont accueillants. Il y a des formes de travail totalement différentes. On peut être assis à un bureau comme on peut être là, comme assis dans un canapé, comme assis sur une table en face d'une fenêtre. L'idée, c'est d'avoir plein de manières de travailler ensemble, mais d'être ensemble. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait du flex, personne n'a de bureau individuel.
Même pas la direction.
Pas la direction, y compris Alexandre Ricard, parce que l'idée.
En même temps, la direction, elle n'est jamais là, ou elle bosse dans les taxis.
Ben avec le Covid, elle est pas mal là. Normalement, elle n'est pas trop là, mais elle revient. Mais l'idée, c'est que c'est justement, on va au bureau pour être ensemble, pour être en réunion, pour créer des choses. Donc d'être assis à un bureau et de rester bloqué à un bureau toute la journée, c'était pas la manière dont ça a été fait.
C'était le projet avant la crise sanitaire,
absolument.
Déjà, de plus avoir du tout de bureau.
Absolument.
Il n'y a pas de demande des salariés quand même de dire moi, chez moi, je suis désolé, mais je ne peux pas me concentrer. J'ai mes enfants, c'est petit. J'aurais besoin quand même d'une salle pour être tranquille.
Absolument, mais on a ça aussi potentiellement. Exactement, on a ça. On a plein d'espaces très différents. Ça va de la grande salle de réunion à des espaces aménagés où on peut mettre vraiment beaucoup de personnes à un phone booth de une personne et qui est totalement confidentiel. Donc, tout l'ingénierie de cet immeuble, ça a été ça. Ça a été de mixer tous ces événements. Et d'ailleurs, ça fait maintenant un an et demi qu'on est dedans. Et on va réfléchir à faire encore évoluer un petit peu les choses puisqu'on apprend en vivant dedans, bien entendu.
Et quand vous avez vu la crise sanitaire se développer, vous vous êtes pas dit on s'est planté, on n'aurait pas dû faire cet investissement là?
Alors on nous l'a beaucoup dit, ça c'est sûr, quand on a inauguré notamment le building, mais en fait non, puisque c'est ce qu'on disait depuis le début, et d'être ensemble, de regrouper les gens. Si on vient au bureau, c'est pour aller chercher une expérience particulière. C'est connecter les gens ensemble, c'est de la créativité, c'est l'innovation, c'est la petite discussion qui est on-side. Et donc, l'intérêt de tout ça, c'est de mettre les gens ensemble et de faire des bureaux qui fassent que les gens aient envie de venir pour faire ça. Quand vous êtes dans des bureaux où vous avez de l'espace, qui sont agréables, vous avez tous les moyens, la technologie fonctionne très bien, c'est facile, c'est plus facile de venir ici. Et après, il y a du télétravail aussi dans les bureaux et on peut être chez soi et faire des mails chez soi parce que c'est plus facile. On peut venir au bureau pour les faire aussi. L'idée, c'est l'agilité de ces bureaux. C'était, on veut pas rentrer dans un seul modèle, il y a qu'une seule manière de travailler. L'idée de ces bureaux, c'est justement d'ouvrir, d'être très agile et que chacun trouve son compte pour travailler et puisse travailler de manière différente lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi.
Vous n'avez pas signé d'accord de télétravail, contrairement à beaucoup d'entreprises qui ont passé plusieurs mois à négocier. Pour quelles raisons ?
Alors, on a signé a posteriori des accords, mais disons qu'on a été très réactifs sur le télétravail. On avait déjà du télétravail au départ, et en fait, on a étendu...
Mais un jour, comme tout le monde.
On avait un jour par semaine, comme pas tout le monde, mais en tout cas un jour par semaine. Ouais. Et on est passé à deux jours dans les discussions avec nos partenaires sociaux au fil de l'eau. Et là, c'est pareil, on cherche beaucoup d'agilité, trouver les moyens de travailler. En ce moment, on est évidemment passé à trois jours pour s'adapter à la situation d'aujourd'hui, mais... Encore une fois, ce qui a vraiment changé, ce qui change là, c'est que ce que je vous dis là est peut-être pas vrai dans un mois. Et ce qu'on veut, c'est avoir des organisations assez agiles et flexibles pour pouvoir s'adapter à tout ça et faire en plus que une seule règle ne fonctionne pas pour tout le monde aujourd'hui. Et on est absolument persuadé de ça. Et donc, il faut avoir cette agilité, il faut donner un cadre pour que les gens puissent être ensemble et travailler ensemble.
Parce que l'agilité, c'est bien, mais parfois, quand même, il faut quelques règles pour savoir comment on fait la réunion.
Ah, mais absolument. Il faut quelques règles, mais il ne faut pas trop de règles non plus. C'est-à-dire que l'intelligence humaine sert aussi au quotidien dans l'interaction avec les gens. Et donc, il faut donner un cadre, plus que des règles pour moi. Il faut donner un cadre de travail pour qu'on soit sûr de travailler ensemble. Et après, c'est au management, et on travaille beaucoup avec le management, à organiser en fonction des équipes, en fonction des moments, des manières de travailler qui fonctionnent pour tout le monde. Et imposer certaines des règles de fonctionnement sur tout niveau, on n'y croit pas du tout. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est dessiner ce cadre qui permet de garantir qu'on est bien tous ensemble et qu'on travaille tous ensemble de manière efficace, mais avec des manières.
Mais ça veut dire que vous laissez quand même libre en partie le management intermédiaire de s'organiser comme il veut, de gérer ses équipes, parce que il faut lâcher la bride pour que ça fonctionne.
Complètement. Mais typiquement là, quand on dit on est sur trois jours par semaine de télétravail minimal. Chaque manager peut organiser comme il veut. Il y en a qui préfèrent avoir leurs équipes là le lundi, d'autres le mardi, d'autres qui préfèrent les équipes scindées. Et ça, c'est vraiment au niveau du management. Et on fait confiance à l'intelligence humaine là-dedans. Et ça, sincèrement, depuis un an et demi, ça fonctionne très bien comme ça. Et on n'a pas besoin de réguler. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire, de garder ce cadre assez général et que chacun réussisse à vivre dedans le mieux possible la situation.
18 000 collaborateurs à travers le monde. Vous n'avez pas vraiment de problème d'attractivité. Par contre, j'imagine que vous avez un sujet de rétention des talents comme tout le monde, et de garder les meilleurs. Il y a ce siège, il y a le congé parental aussi. Vous êtes passé, comme Kering ou d'autres entreprises, à mieux 10 ans que ce que propose l'État français. C'est important, c'était une demande interne ?
Oui, alors c'était une demande interne. C'est pour répondre justement de la même façon, c'est pour donner un cadre de fonctionnement pour les gens. Il y a des gens qui vont le prendre, des hommes qui vont le prendre, d'autres qui vont pas le prendre, mais on a donné cette possibilité de le faire. Et ça fonctionne comme ça en France. Dans le monde entier, on a des règles assez différentes. Le principe de Pernod Ricard, c'est d'être décentralisé. Donc ce qui est vrai aujourd'hui en France n'est pas nécessairement vrai aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Chine. Et c'est de garder en fait ces règles qui fonctionne le mieux localement. Et donc en France, effectivement, c'est une règle qui a très bien fonctionné. Vous dites, on n'a pas de problème d'attractivité, c'est vrai. On n'a pas vraiment de problème de retention. On parle de la Great Resignation, ce qui est vrai aux États-Unis, et c'est vrai chez nous aussi aux États-Unis. Mais dans les autres pays, à part quelques fonctions très spécifiques, c'est pas un sujet chez nous.
Alors pourquoi ? Pourquoi vous seriez la seule entreprise de France à ne pas avoir de problème de rétention de talent ?
Non, je pense pas d'abord qu'on soit la seule entreprise de France, mais je pense que c'est un ensemble. On est le fait de vivre ensemble et qu'il fasse partie d'un corps.
Mais là, tous les DRH vous écoutent en disant c'est quoi sa solution miracle ?
Non, il n'y a pas de solution miracle, mais ça fait depuis la naissance de Pernod Ricard, on dit qu'on est créateur d'humanité. Une partie de notre culture, c'est d'être ensemble, c'est passer des bons moments ensemble, c'est créer ces moments ensemble. On crée ces moments avec nos consommateurs, on le fait aussi en interne. C'est exactement ce que recherchent les gens aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est normalement positionné sur les marchés de rémunération, sur les avantages sociaux qu'on peut avoir, ce que vous disiez, tout ça. On est plutôt à la pointe de tous ces éléments-là. Mais en plus de ça, la manière de travailler ensemble et la manière de vivre ensemble correspond parfaitement à l'attente de beaucoup de gens qui est de se connecter, de rencontrer des gens, de partager des choses.
Sur le congé paternité, on est à 2 mois pris en charge à 100% de la rémunération. Vous cherchez quoi comme type aujourd'hui de talent, comme type de gens dans votre vision de la diversité du recrutement ?
Alors justement, on cherche des gens très diversifiés, c'est-à-dire qu'on cherche à ne surtout pas avoir une vision, on cherche à refléter notre base de consommateurs. et nos consommateurs, ils ont toutes les tailles, toutes les formes, toutes les couleurs, toutes les formes de pensée. Et donc, on essaye de refléter nos consommateurs au sein d'entreprises. Donc, c'est cette diversité qu'on essaye de retrouver dans le recrutement et c'est cet enrichissement qu'on trouve dans la discussion et dans ces réunions encore. Donc, c'est vraiment ça qu'on va chercher. C'est pas la diversité pour remplir des cases et cocher des cases sur un papier. C'est parce qu'on croit absolument fondamentalement qu'il y a un énorme bénéfice pour nous en termes de business d'avoir des collaborateurs qui reflètent nos consommateurs.
C'est au départ une boîte très liée évidemment à la famille Ricard. Le siège, vous avez carrément la rue Paul Ricard, là où est votre siège. C'est quoi l'impact au quotidien d'une entreprise familiale? Tout le monde connaît l'histoire de la famille Ricard. C'est quelque chose que vous vérifiez chez vos salariés avant de les embaucher?
Alors, on vérifie pas.
Bio.
En France, souvent, ils la connaissent, objectivement. Ouais. C'est beaucoup moins vrai à l'international. Mais ce que ça apporte surtout, c'est une vision de long terme. Et typiquement, dans des périodes de crise comme aujourd'hui, on n'est jamais sur des réactions de court terme, puisque la vision d'une entreprise plus familiale est une vision beaucoup plus de moyen et de long terme. Donc, c'est cette perspective plus longue qui donne plus de temps pour faire les choses, qui permettent de réagir moins dans l'émotion, au moins à court terme, en particulier en période de crise. Donc le fait de prendre soin de nos collaborateurs sur du long terme,
vous pensez que c'est différenciant d'être une entreprise familiale liée à cette famille-là?
Oui, absolument, parce que la perspective, c'est pas une perspective à 2 ans ou à 3 ans, à 5 ans. La perspective, c'est de continuer cette histoire, et on se sent tous un peu dépositaires de cette histoire. Donc oui, on a une perspective plus longue, et donc les prises de décision sont moins impactées par le court terme.
Vous qui êtes une entreprise internationale, est-ce que vous pensez qu'un jour les voyages d'affaires vont reprendre ?
Oui, en fait, dès qu'on pourra revoyager, on le voit bien, en fait, on a besoin de freiner les personnes pour voyager dans notre groupe. Dès que ça repart, dès qu'il y a un petit pays qui s'ouvre, les gens veulent voyager parce que c'est toujours ce besoin de connecter. Donc oui, ça repartira. Après, est-ce que ça repartira de la même façon ? C'est comme les manières de travailler. Bien sûr qu'elles auront été impactées par cette crise. On a changé déjà nos manières de travailler. Ça impactera durablement, probablement pour les voyages d'affaires. Mais oui, ça va repartir.
Vous avez travaillé chez Orangina, maintenant vous travaillez chez Pernod Ricard, vous êtes passionné par les boissons. C'est quoi en tant que DRH votre défi personnel, organisationnel pour l'année 2022?
Le défi, c'est au-delà de 2022, puisqu'on voit à plus long terme, c'est de dire, justement, on a beaucoup en RH, comme moi j'ai été formé à ça en tout cas il y a très longtemps, c'était de trouver un modèle qui fonctionne à peu près avec tout le monde. Au moment où je rentre dans l'entreprise, au moment où je la quitte. Aujourd'hui, on est absolument convaincu que le modèle unique ne fonctionne pas. Et donc, c'est de réussir à créer un espace dans lequel les gens peuvent vivre différemment tout en gardant l'unité de l'entreprise. C'est très important parce que nous, notre culture, c'est vraiment le ciment de l'entreprise. On a un taux d'engagement extrêmement fort.
Vous dites le cas par cas, ok, je peux gérer. On est capable.
Ben, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est le challenge. Vous me dites quel est votre challenge?
Ouais, c'est ça,
c'est le challenge, c'est de réussir à gérer le cas par cas. C'est pour ça qu'on a
avec
fait une transformation
salariés,
digitale, justement. Parce qu'avec de la data, ça permet de faire ce genre de choses-là. Parce que quand on a de la data, quand on accumule de la data, ça permet d'avoir cette vision plus individualisée, en fait, de ce qu'on peut faire pour nos collaborateurs.
Vous m'offrez une transition toute cuite pour la partie d'après où on va parler justement de la data avec Bearing Point. Merci beaucoup Cédric Rama d'être venu nous voir, DRH de Pernod Ricard.
Merci.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Que peuvent faire les data pour les RH? C'est la question qu'on va poser à Olivier Parent du Châtelet. Bonjour, vous êtes associé chez Bearing Point. On a cette masse de data dans les RH de qui nous viennent du recrutement des salariés. On ne sait pas toujours quoi en faire. À quel point elles peuvent être utiles et à quel point on peut arriver aujourd'hui à bien les trier?
D'abord, bonjour à tous. Merci en fait pour votre invitation. Effectivement, en tant qu'associé en charge des activités de conseil en ressources humaines, mon métier, c'est d'accompagner les DRH dans leur projet de transformation au sens large. Et pour pouvoir essayer d'optimiser aujourd'hui la transformation de la fonction RH, mais aussi la valeur qu'elle apporte vis-à-vis du business, on s'appuie de plus en plus fortement sur la data RH. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de data RH? C'est un point qui est important, à mon sens, à préciser en termes de périmètre. C'est tout ce qui relève, en fait, de la caractérisation, on va dire, des attributs des collaborateurs. Que ce soit sur des données personnelles, donc le nom, l'adresse, le sexe, l'âge, l'ancienneté, mais également des données en fait qui sont propres au poste que la personne occupe, aussi des données qui sont relatives aux compétences que la personne détient, mais également en fait des données qui sont issues de tout l'historique de la carrière de la personne, que ce soit des historiques de rémunération, de formation, de poste que la personne a occupé. Et on s'intéresse également, au-delà des données en fait qui sont propres à chacun des individus, aux données qui sont caractéristiques de l'environnement de travail au sens large et qui aujourd'hui accompagnent en fait chacun des salariés.
Il n'y a pas là-dedans des règles RGPD?
Alors, une fois qu'on a dit tout ça, en fait, une fois qu'on a travaillé sur cette logique de data RH, aujourd'hui on se rend compte que la data RH, elle est au centre de l'ensemble du cycle de vie professionnel de tous les collaborateurs en fait dans une organisation donnée. Et historiquement, traditionnellement, on travaillait beaucoup sur la data en fait au niveau du recrutement, parce qu'on arrivait à traiter de manière massive, on va dire, la donnée qui était portée par les CV ou les candidatures, de manière à optimiser, on va dire, le travail des recruteurs, avec une logique de présélection des candidatures. Maintenant, on se rend compte que cette data, elle est aussi valable en termes d'utilisation, en termes d'exploitation, sur tous les autres moments de vie professionnelle du collaborateur et selon tout le cycle de vie RH.
Donc ça peut être presque une aide à la carrière pour un certain nombre de collaborateurs.
En particulier, aujourd'hui, on utilise de plus en plus en fait cette logique de proposition d'offres, on va dire, d'évolution professionnelle ou de postes à pourvoir sur la base de matching de compétences entre, d'une part, des compétences qui ont été déclarées par le collaborateur, d'autre part, des compétences qui sont requises par rapport à un poste à pourvoir ou par rapport à une évolution professionnelle. Et donc, l'objectif est d'arriver à trouver le meilleur matching entre le collaborateur et les besoins
d'entreprise. Et oui, mais là, je vais vous dire, et le boulot du RH, il est où ?
Tout le travail, en fait, du RH, aujourd'hui, c'est d'organiser cette data avec une vraie conviction, en fait, pour moi, qui est de ne pas opposer d'un côté le traitement de l'algorithme, de la data, de l'intelligence
et
artificielle
l'humain.
Et l'humain qui effectivement est porté par la fonction RH. Et aujourd'hui on se retrouve avec parfois des paradigmes en fait ou des transformations un peu difficiles à appréhender, notamment en termes de conduite du changement, parce qu'effectivement la fonction RH peut avoir du mal à appréhender la maîtrise de cette data RH. En revanche, moi je suis convaincu en fait qu'il ne faut pas opposer les deux dimensions, mais qu'il faut que la fonction RH soit en capacité à bien appréhender la maîtrise de sa data, de manière à pouvoir enrichir la valeur qu'elle apporte.
Mais du coup, comment elle fait pour appréhender cette donnée? Elle prend une boîte extérieure qui lui traite sa data, elle prend un spécialiste data RH?
Tout ça, en fait, il faut l'organiser. Comme n'importe quel nouveau concept dans une organisation, en fait, et la data RH en fait partie, il faut pouvoir le structurer. Donc ça veut dire structurer, c'est déjà identifier les datas qui sont pertinentes, 2, les collecter, 3, on va dire les stocker, 4, les organiser, mais surtout 5, les exploiter de manière à pouvoir faire prendre des décisions pertinentes d'un point de vue RH. Et pour ce faire, on s'appuie effectivement sur des systèmes d'information, que sont les systèmes d'information RH classiques des organisations. On a aussi beaucoup de start-up aujourd'hui qui sont assez innovantes, qui permettent de bien capter l'information et la data, et surtout de rendre des services à valeur ajoutée. Mais sinon, on a aussi des organisations en fait qui déploient des architectures un peu plus complexes, comme des data lakes ou des data hubs. Maintenant, au-delà de la partie technologique, ce qui est important à mettre en place, c'est des logiques de gouvernance, d'organisation, de respect de la compliance de la data. C'est qui est responsable de cette data? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et notamment avec des règles de RGPD, en fait, qui sont aujourd'hui extrêmement importantes à respecter. Mais au-delà de cette logique d'organisation, de technologie, ça veut dire que la fonction RH doit aussi intégrer de nouvelles compétences.
Bah oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est que là, vous allez avoir une scission entre ceux qui maîtrisent totalement la question et puis ceux qui sont un peu perdus.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit un enrichissement de certaines activités RH, notamment sur du recrutement, sur la formation, sur la gestion de carrière, mais même sur la partie QVT ou risques psychosociaux, parce qu'on a besoin d'intégrer la data qui qualifie d'une manière ou d'une autre le collaborateur. Et c'est vrai qu'on intègre aujourd'hui progressivement ces compétences. Mais l'objectif ultime, c'est que la fonction RH, et quels que soient les acteurs de cette fonction, intègrent de manière native un minimum de compétences autour de la data pour pouvoir assurer cette vision holistique en termes de service et qui intègre cette dimension technologique ou de la data.
Ça veut dire qu'il faut les former. Et aujourd'hui, c'est pas tout. La formation en data dans les RH, ce n'est pas la priorité. Alors, déjà, c'est d'avoir du monde.
Alors déjà, il faut avoir du monde, mais c'est vrai que demain, la fonction RH va devoir se réinventer. Et une manière de se réinventer, c'est d'apporter plus de valeur ajoutée en fait, vis-à-vis des collaborateurs, en s'appuyant sur une meilleure connaissance des collaborateurs qui l'accompagnent. Et pour appuyer cette connaissance, on va s'appuyer sur la notion de data et les logiques d'intelligence artificielle en fait, qui permettent d'exploiter au mieux cette data.
Et vous avez l'impression que les RH aujourd'hui, face à cette montagne, parfois montagne d'or, sur laquelle ils sont assis, préfèrent dire ah non, c'est trop compliqué, je regarde pas ou je sais pas quoi en faire, je lâche l'affaire en fait.
Alors c'est vrai qu'on voit beaucoup d'acteurs de la fonction RH qui sont parfois un peu désemparés et perdus parce qu'ils ne maîtrisent pas très bien finalement le contenu des algorithmes ou le traitement de la data. Et donc c'est là où nous, en tant que consultants, on a souvent un travail de conduite du changement assez important à opérer pour essayer de faire progresser, de faire évoluer les compétences.
Là, vous êtes presque évangéliste.
Je suis évangéliste d'une part, mais derrière, j'accompagne opérationnellement, on va dire, mes clients pour que la fonction RH, pour qu'elle soit au rendez-vous, notamment des enjeux de demain. Et je pense notamment aux nouvelles générations qui, demain, veulent avoir des services RH en entreprise qui soient identiques à ceux qui peuvent vivre d'un point de vue plus individuel. On ne comprend pas pourquoi on a tout un tas de services en tant que citoyen, en tant que consommateur, qu'on ne retrouve pas dans l'entreprise. Ben, c'est pareil pour des services RH. Et demain, si on veut fournir des services RH qui soient personnalisés, qui soient prédictifs, il va falloir s'appuyer sur la data. Et la fonction RH doit faire ce pas en termes d'évolution et d'intégration, on va dire, de cette capacité à prendre en compte la data pour pouvoir apporter plus de valeur ajoutée.
Merci beaucoup, Olivier Parent du Châtelet, associé chez Bearing Point. On va parler justement de formation. Peut-être que la data, c'est un bon point.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Vous avez tous reçu des textos, des appels pour utiliser votre CPF. Ça vous énerve, ça vous dégoûte, ça vous donne envie de ne pas vous former. Eh bien, c'est une erreur. On est avec Jérémy Placero. Bonjour, directeur commercial chez Hello Work. Les arnaques au CPF, ça existe, ça saoule les gens, mais il ne faut pas que ça les dégoûte.
Tout à fait. Aujourd'hui, il y a un vrai engouement pour la formation. Il suffit de regarder les derniers chiffres du gouvernement. En 2021, c'est plus de 2 millions de formations qui ont été financées dans le cadre du CPF. C'est deux fois plus qu'en 2020 et quatre fois plus qu'en 2019. Cet engouement, il peut s'expliquer de plusieurs manières. La première, la démocratisation du CPF. Aujourd'hui, chaque Français sait qu'il dispose d'un CPF, donc compte personnel de formation, avec plus de 500 euros de crédité chaque année. Et ces 500 euros, il va pouvoir les utiliser pour se former dans les domaines qui l'intéressent. Il est vraiment maître de son parcours de formation. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est le Covid, finalement, qui a été un très fort accélérateur pour la formation. De deux façons. Un, parce que beaucoup de salariés se sont retrouvés en chômage partiel et ont donc décidé de profiter de cette période pour se former. La deuxième raison, c'est finalement que le Covid a accentué la digitalisation des formations et ça permet à des Français qui ne pouvaient pas se former à l'époque en présentiel de se former directement de chez eux.
La demande et l'offre de formation ont explosé, mais du coup quand vous dites un bon matin, bah, je vais utiliser mon CPF, je regarde combien j'ai, c'est parti. Et alors là, c'est l'océan, c'est-à-dire que vous ne savez plus par où commencer, s'il faut être naturopathe ou boucher-charcutier. Enfin, vous dites, vous formez dans des domaines qui vous intéressent, on est perdu.
Tout à fait. L'offre de formation est extrêmement vaste, ce qui est fantastique. On est un des pays au monde qui a l'offre de formation la plus grande, plusieurs centaines de milliers. Par contre, c'est très difficile de s'y retrouver et on peut rapidement être perdu.
Donc, parce qu'avant, votre DRH, il vous disait, regardez, prenez dans le catalogue, alors on disait, ah ouais, il n'y a rien qui me va, mais au moins, c'était fermé comme offre.
Oui, tout à fait. Alors qu'aujourd'hui, vous avez le choix et du coup, il existe des plateformes comme Ma Formation qui permettent de trouver la formation qui correspond à la fois à son profil. Est-ce qu'on est salarié? Est-ce qu'on est cadre dirigeant? À son projet? Est-ce qu'on souhaite monter en compétence en anglais, par exemple, ou est-ce qu'on souhaite se reconvertir pour complètement changer de métier? Est-ce qu'on souhaite mettre un gros budget? Alors, des formations, on en trouve à tous les prix. Ça va de quelques dizaines d'euros à quasiment 100 000 euros, par exemple, pour des MBA dans des grandes écoles spécialisées. Est-ce qu'on veut utiliser son compte personnel de formation ou non? Est-ce qu'on souhaite se former à distance ou directement?
Alors, qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens veulent?
Alors, aujourd'hui, il y a un gros engouement pour les formations qui sont faites en distanciel. Aujourd'hui, c'est 70% des recherches qui sont faites sur ma formation. Mmh. Pour information, c'était quasiment l'inverse à l'époque avant le Covid. C'était 40% des recherches qui étaient faites sur du distanciel. Donc, il y a vraiment eu un avant-après de ce côté-là. Et les formations qui vont être très recherchées par les salariés, notamment le bilan de compétences, qui est souvent la première étape lorsqu'on a un parcours de formation, lorsqu'on a un projet de formation, pardon. L'avantage du bilan de compétences, c'est que c'est une formation courte, elle dure 24 heures, souvent étalée en plusieurs semaines, et elle permet de faire un point sur son profil, ses forces, ses faiblesses, et donc d'envisager la reconversion, notamment.
C'est vraiment utile, parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait son petit bilan de compétences pour savoir où il en est, on en sort... grandi, avec un projet.
On en sort avec beaucoup d'informations et on en sort avec bien souvent un projet de formation. Donc ça, c'est la première formation qui fonctionne très très bien chez les salariés.
C'est autour de 2000-2500 euros.
Tout à fait, autour de 2000 euros. Et il faut savoir que le montant moyen disponible sur le CPF de Français est autour de 1500 euros. Donc parfois, il faut sortir sa carte bancaire. Ouais. Mais pas tout le temps. En fait, il faut se renseigner. Il existe énormément d'aides aujourd'hui pour financer sa formation.
Donc le bilan de compétences, autre formation qui marche?
L'anglais, qui va être très plébiscité à la fois par les salariés, mais également par les entreprises elles-mêmes. On va retrouver également des formations de formateurs. Beaucoup de salariés se disent, écoutez, je suis arrivé à un stade de ma carrière où j'ai envie de transmettre mon savoir. Les MBA, on en parlait tout à l'heure, notamment plébiscité par les cadres qui vont vouloir prendre davantage de responsabilités dans l'entreprise.
Mais le MBA, c'est possible quasiment en distanciel, en le faisant le soir? On n'est pas obligé de s'arrêter?
Tout à fait. Il existe des MBA qui se font 100% à distance. Il existe des MBA qui se font en présentiel. Ça, c'est classique. Et il existe aussi des MBA qui sont ce qu'on appelle blended learning, c'est-à-dire un mix entre présentiel et distanciel. Et c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux
Français. Ça apporte quelque chose sur le CV.
Tout à fait. Sur le CV, ça apporte au niveau des responsabilités qu'on peut prendre également dans l'entreprise. D'ailleurs, certaines entreprises n'hésitent pas à cofinancer les MBA de leur cadre à haut potentiel. Donc oui.
Comment on voit qu'une formation est bonne par rapport à une autre? Comment on fait le tri dans l'offre?
Alors aujourd'hui, l'offre de formation est tellement vaste qu'il faut savoir s'y retrouver. Sur ma formation, on fait en sorte d'afficher les formations de qualité et notamment les indicateurs qui permettent de s'y retrouver, notamment la certification Calliope. Mais on va plus loin, on affiche également les avis des utilisateurs qui ont suivi cette formation. Qui de mieux finalement qu'une personne qui a suivi une formation?
Donc c'est le bouche à oreille quoi.
C'est le bouche à oreille et c'est les avis d'utilisateurs. De la même manière qu'aujourd'hui, quand on choisit un restaurant, on a tendance à regarder ce qu'en ont pensé les gens qui ont déjà mangé dedans. Écoutez, sur la formation, c'est pareil.
Merci beaucoup Jérémy Placereau, directeur commercial de chez Hello Work. Formez-vous, même si aujourd'hui c'est pas facile de faire le tri. On se retrouve la semaine prochaine dans Happy Boulot, le mag. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.